Ministre de la Communauté, conférence privée, Père Philippe, 3 novembre 1982, Rimont.
Si vous le voulez bien, on pourrait tout à l'heure, à la fin, faire une sorte de procession improvisée pour bénir toutes vos cellules. Je crois que c'est bien, comme c'est Saint Martin de Porrès et que demain c'est Saint Charles Borromée, c'est la fête du pape, vous savez bien, et la fête de Madame de Habiche. Alors, on pourrait peut-être faire cela, je ne vous parlerai pas trop longtemps, et je donnerai à chacun dans les cellules, une petite croix qui vient de Jérusalem, qui est offerte pour chacun d'entre vous. Une petite croix très simple, sans Christ, pour vous y mettre dessus. Je crois que c'est bien, parce que c'est pas, faut pas faire ça, ça servira de compli. On chantera le Salve Regina pour terminer les complis. Ce qu'il faudra, c'est simplement chercher de l'eau bénite, et puis un petit bout de buis béni. Ça peut se faire rapidement. Ça vous dérange pas? Je le fais. On avait commencé déjà à faire cela le soir, ce mystère de Marie et le mystère de la vie monastique. On le reprend ici, puisqu'on reprend tout ici. À Fribourg, tout était à l'état un peu embryonnaire. Et alors, on reprend tout, étant donné que normalement, si Dieu le permet, on aura quand même un peu plus de temps, normalement, pour réfléchir sur la grâce particulière que Marie veut donner et donne à chacun des membres de la communauté Saint-Jean. C'est bon d'y réfléchir ensemble. Donc, ce n'est pas un cours que je fais ici. C'est plus une réflexion théologique, genre méditation, mais ouverte à la contemplation. Et chacun d'entre vous, vous y coopérez. Et là encore, il ne faut pas hésiter. Que sur certains points je peux passer rapidement et que vous auriez aimé que je revienne, il ne faut pas hésiter de le faire. Donc je reprendrai, si vous voulez, avec vous les grands mystères de Marie pour illuminer dans la perspective de la Vierge Marie ce que représente le mystère de notre vie monastique, religieuse, apostolique. Comprendre ce renouveau que demande Marie. Ça me frappe toujours quand je suis auprès des petites sœurs de Bethléem, et là j'ai eu l'occasion de vivre avec elles pendant 10 jours, 12 jours, de voir combien à Bethléem ce renouveau de la vie monastique contemplative est net, précis. Elles sont devant nous, d'une certaine manière. Nous n'avons pas à les imiter, c'est bien évident, c'est autre chose. On est des frères, des sœurs, des cousins germains, si vous voulez, les frères du Seigneur, quoi, tout simplement, parce que les frères du Seigneur, ça rassemble un peu tout. Et alors, on doit vivre, je crois, un peu des mystères semblables, un renouveau profond dans le cœur de Marie, à la lumière du Père Kolb, c'est-à-dire de l'Immaculée Conception. Alors, le mystère de l'Immaculée Conception, je ne vais pas en parler explicitement maintenant, mais c'est simplement pour vous rappeler ce que dit le Père Kolb, qu'il faut tout reprendre dans la lumière du mystère de l'Immaculée Conception. avec sa canonisation, je crois que c'est pour nous une très grande lumière. Ce n'est pas la théologie scientifique qui est reprise à la lumière de l'Immaculée Conception, mais c'est toute la théologie mystique, c'est-à-dire notre vie pratique, qui doit être reprise dans cette lumière. En comprenant que le mystère de l'Immaculée Conception nous est donné pour que nous-mêmes nous comprenions mieux notre état de pécheur, pour que nous comprenions mieux combien Marie désire nous sauver, nous aider à vivre dans une limpidité, une pureté qui est la pureté de son cœur, qui est la grande pureté de son cœur. Et que Marie, par le mystère de l'Immaculée Conception, réclame de nous et de chacun de nous une exigence nouvelle. Et ça, du reste, la difficulté, c'est qu'on est obligé d'avancer, d'aller de l'avant. La communauté Saint-Jean ne peut pas imiter telle ou telle communauté. Et ce n'est pas d'orgueil de dire ça, c'est simplement être vrai. Comme Bethléem ne peut pas imiter. Bethléem s'appuie sur Saint-Bruno, sur Saint-Bruno, pas sur la Chartreuse, mais sur Saint-Bruno. Nous nous appuyons sur Saint-Jean. Vous comprenez bien, il n'y a pas beaucoup de communautés joanniques au sens propre. Et on doit donc, par le fait même, je ne dis pas inventer, il n'y a pas tellement de choses à inventer. Il faut convertir notre cœur, la conversion de notre cœur en découvrant de plus en plus les exigences de la vocation de Saint Jean, la vocation du disciple bien-aimé, en respectant ce que la Providence nous a indiqué, les Reims, Montmorin et ici. Ces trois aspects. Et je crois que ces trois aspects doivent se tenir très fort, très profondément. Les Reims, c'est l'enracinement dans la vie monastique. Mais nous ne vivons pas la vie monastique à la manière de les Reims. Mais nous prenons à les Reims, si vous voulez, un enracinement dans tout un aspect monastique. Montmorin montre comment cette vie monastique doit être vécue d'une manière contemplative. Et ici, nous comprenons comment la doctrine, la purification de notre intelligence, doit être pour la contemplation et pour la vie apostolique. La vie contemplative aujourd'hui ne peut vraiment se réaliser que s'il y a cette purification de l'intelligence. Je ne suis pas seul à le dire, vous voyez. Sœur Marie, qui a une certaine expérience quand même de ce que représentent les exigences d'une vie monastique contemplative, ne cesse de le dire à ses filles, et frère Patrick en est convaincu aussi pour ses frères. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui mener une vie contemplative si on a des idées fausses. C'est-à-dire si on est plus ou moins plongé dans les idéologies modernes. C'est impossible. C'est absolument impossible. Parce que ces idéologies modernes, dont on respire l'air, hein, même si vous n'avez pas fait de philosophie, si vous n'avez pas fait de licence, on respire cet air des idéologies modernes. Et ces idéologies modernes pénètrent, nous le savons bien, dans les facultés catholiques. Ça pénètre. Si on se laisse prendre par cela, sans avoir une purification profonde, radicale, je crois que l'Esprit Saint ne peut pas agir en toute liberté. Je sais très bien qu'il pourrait le faire, c'est bien évident. Mais le Saint-Esprit n'aime pas que nous ne coopérions pas. Le Saint-Esprit aime qu'on coopère. Et le Saint-Esprit veut que nous coopérions. Le Saint-Esprit convertit notre cœur au point de vue de l'amour et il nous demande de convertir notre intelligence. Et c'est ce que nous essayons de faire ici, de convertir notre intelligence avec tout ce qu'il y a de difficultés. C'est pas commode. Et je crois que là, c'est quelque chose, vous voyez, de très nouveau dans l'Église. Je vois qu'avant, avant, c'est pas tellement vieux, hein, c'est il y a, si vous voulez, 70 ans. Avant, on pouvait entrer dans un couvent trappiste, cistercien, bénédictin, chartreux. On était chrétien, on avait des mœurs chrétiennes. Et alors on recevait là une formation monastique qui allait bien parce qu'il y avait quand même un fondement chrétien. Et donc il n'y avait pas tellement de rectification à faire au point de vue philosophique. Aujourd'hui, tous, il faut bien le dire, tous, nous sommes plus ou moins abîmés par ce milieu dans lequel on respire et qui met en nous des faiblesses. Parce que nos faiblesses affectives s'enracinent dans des erreurs intellectuelles. Je ne veux pas dire que les erreurs intellectuelles expliquent toutes les faiblesses affectives, hein. Ce serait du bon platonisme. Je ne veux pas dire ça. Je veux dire que toute erreur intellectuelle, plus ou moins acceptée, or, elle est acceptée dès qu'on ne veut pas se convertir. Ça, c'est sûr. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, dès qu'on dit, ah non, moi non, il n'y a pas d'erreur, oh, j'ai le droit de penser ce que je pense, ce que je veux. L'autre jour, j'ai entendu dire des choses comme ça, pas ici, pas d'ici, mais par rapport à la vie contemplative. Oh, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut être hégélien et un bon contemplatif. Je dis non. C'est impossible. C'est impossible. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Il n'aurait pas dit ça autrement. C'est impossible. S'il y a des erreurs intellectuelles consenties, acceptées, il y a une répercussion du côté affectif. Et par le fait même, l'Esprit-Saint n'est plus aussi libre. Et c'est, je crois, ce que nous vivons, ça. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre que nous vivons quelque chose de très nouveau. Le Saint-Père l'a dit, je vous ai déjà dit, il l'a dit aux évêques français. Nous vivons une tentation comme dans l'Église, que l'Église n'a encore jamais vécue. Il faut que chacun d'entre nous, nous prenions conscience de cette tentation. Et cette tentation, il montre bien que ce sont les idéologies athées qui sont là pour nous faire croire que l'homme peut sauver l'homme. Et donc, qu'on n'a plus besoin de cette conversion de l'intelligence. Et c'est cette conversion de l'intelligence que nous devons demander à la Vierge Marie. Ce qu'il y a qu'elle, je crois, qui nous permet ça. On est beaucoup trop orgueilleux pour accepter de convertir notre intelligence par nous-mêmes. On arrive encore à accepter de convertir son cœur, mais de convertir son intelligence, c'est pas commode du tout. Hein. C'est à la racine de l'orgueil, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et tous les athéistes contemporains, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil du démon qui vient pervertir l'intelligence. Alors on ne s'en aperçoit pas quand on est dans la gueule du démon, c'est bien évident. On ne s'en aperçoit absolument pas. Et quand on est dans les erreurs, on ne s'en aperçoit pas. On ne sait pas ce que c'est que la vérité. Mais dès qu'on sort un peu, alors on commence à s'apercevoir que toute erreur acceptée au niveau de l'intelligence a une répercussion du côté du cœur. Vous voyez, alors c'est cela que je crois très important. De comprendre que la Vierge Marie nous est donnée dans son mystère de l'Immaculée Conception pour cela. En elle, il n'y a jamais eu la moindre erreur du côté de l'intelligence et du côté du cœur. Et il faut que ce soit elle qui nous aide à vivre cet équilibre divin qui nous est demandé, un enracinement profond dans la manière de vivre des moines ermites, des moines du désert, en vue de la contemplation. Ce n'est pas la vie monastique pour la vie monastique, non. C'est la vie monastique en vue de la contemplation. C'est ça que Marie ne cesse de nous rappeler. Marie, si elle est immaculée, ce n'est pas pour être immaculée. Si elle est immaculée, c'est pour être mère de Dieu, c'est-à-dire contemplative. C'est pour la maternité divine qui est une maternité contemplative. C'est pour être notre mère. C'est pour glorifier le Père. Et c'est pour être co-médiatrice, médiatrice de toute grâce avec Jésus. C'est pour ça qu'elle est immaculée. Et c'est ce mystère de l'Immaculée Conception qui doit s'enraciner de plus en plus dans notre vie. Il faut que nous lui demandions tous les jours, ça. Qu'elle soit pour nous l'Immaculée, pour chacun d'entre nous. Et puis quand on l'a demandé pour chacun d'entre nous, on le demande pour tous. Et qu'elle soit l'Immaculée pour nous tous, pour toute la communauté Saint-Jean, sans l'annexer, évidemment. On ne demande pas mieux qu'elle soit l'Immaculée pour Bethléem, qu'elle soit l'Immaculée pour Champagne, qu'elle soit l'Immaculée pour tous ceux que nous aimons, qu'elle soit l'Immaculée pour toute la vieille tradition monastique. Mais on comprend que Marie peut susciter de nouvelles fraternités, de nouvelles communautés monastiques, pour que l'Immaculée prenne une place primordiale et qu'elle soit là vraiment comme celle qui nous est pleinement donnée. Je crois que c'est cette grâce-là que nous devons demander au Père Kolb. C'est cette grâce-là que nous devons demander au Saint-Esprit. Que dans son mystère de l'Immaculée, elle nous permette de mieux saisir ce que doit être notre consécration monastique. Ce que doit être cette consécration, c'est important pour nous de saisir cela. Et puis de voir tous les mystères de notre vie monastique, contemplative, apostolique, dans la lumière de l'Immaculée, à travers chacun des mystères de Marie. C'est ça que je voudrais faire avec vous. Voyez, que chacun nous essayons d'entrer pleinement dans cette exigence d'amour. Parce que je crois que c'est cela qui caractérise la communauté Saint-Jean comme ça caractérise Bethléem. Et que si on n'entre pas pleinement dans ce mystère, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Encore une fois, ce n'est pas exclusif, hein, comprenez bien, ce n'est pas exclusif. Je prends Bethléem parce que je reviens de ce voyage, et puis que Bethléem est très fort dans mon cœur, et que j'aime beaucoup Bethléem, alors par le fait même, c'est quelque chose de parallèle. Mais Bethléem a sa note particulière, il ne faut surtout pas l'imiter, ce serait faux. Il ne faut surtout pas. Mais il faut découvrir ce que Marie réclame de nous. Et ça, pour chacun d'entre nous, il faut lui demander tous les jours, dans la lumière de l'Immaculée, savoir ce que Marie réclame de nous, ce que Marie nous demande. Le mystère de l'Immaculée tel que le Père Kolb l'a vu. Et vous savez bien, il l'a vu à Lourdes. En écoutant le message de Marie à la petite Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. C'est Marie, dans son mystère de gloire, qui dit qu'elle est immaculée. C'est Marie dans son mystère de gloire. Et c'est ça qui est si impressionnant. C'est Marie dans la gloire qu'elle a auprès du Père qui vient nous communiquer qu'elle est immaculée. Et vous comprenez bien, quand Marie dit cela, c'est une mère qui le dit. Et elle le dit pour que nous le recevions. C'est pour nous, je suis l'Immaculée. Marie ne se glorifie jamais. Elle est petite servante. Et quand elle dit qu'elle est l'Immaculée, c'est pour que nous comprenions qu'il y a là une grâce particulière pour nous. Nous avons besoin d'une oasis de pureté. Nous avons besoin d'une oasis de vérité et de lumière. Nous avons besoin d'une oasis d'amour. Et c'est le cœur de Marie. Au milieu du monde d'aujourd'hui, au milieu de ce monde matérialiste, au milieu de ce monde plein d'erreurs au point de vue idéologique, nous avons besoin d'elle, dans sa pureté, dans la limpidité de son cœur. C'est son cœur douloureux et immaculé qui nous est donné. C'est bien ce qu'avait été dit à Fatima. Et ce que nous devons recevoir. La recevoir comme Jean l'a reçu. Jean a reçu l'Immaculé. Il l'a pris chez lui. Il ne le savait peut-être pas explicitement, mais il le savait quand même. Puisque Jésus avait dit pour lui « femme ». Et je crois que quand Jésus dit « femme » à Marie, Jésus regarde l'Immaculée. Jésus le savait. L'Église a mis longtemps avant de le savoir, mais Jésus le savait tout de suite, lui, qu'elle était l'Immaculée. Et donc quand il dit « femme », c'est pour nous faire comprendre, justement, qu'elle est bien celle qui est la petite créature entièrement entre les mains de Dieu. « Nigra sum sed formosa ». C'est l'Immaculée cachée à travers les douleurs, à travers le conditionnement de l'homme, de la femme. « Nigra sum sed formosa ». C'est celle-là que Jésus donne à Jean. C'est celle-là que Jésus nous donne à chacun d'entre nous. Et pour nous, nous savons que c'est l'Immaculée. La femme que Jésus nous donne, comme il l'a donnée à Jean, c'est l'Immaculée, que nous devons recevoir. Jean l'a reçue chez lui. Comment recevoir Marie? C'est la recevoir dans une attitude de foi. Nous devons avoir un regard contemplatif sur Marie, et non pas seulement un regard de dévotion, d'aimer beaucoup Marie, parce qu'on a toujours beaucoup aimé la Sainte Vierge. C'est très très bien. Il faut garder les dévotions qu'on a, mais il faut les dépasser. Parce que vous savez, si on reste au niveau de la dévotion, ça ne dure pas. Surtout quand il y a du brouillard. Alors ça ne dure pas. Quand il y a un beau soleil chaud, ça va, c'est très très bien. On est un petit lézard dévot. Mais ça ne dure pas. Quand il y a justement le brouillard, ça ne va plus du tout. Il faut que notre attitude vis-à-vis de la Très Sainte Vierge s'enracine dans une attitude de vie théologale. Et ça, c'est très important. C'est en ce sens-là que nous pouvons tenir bon. Si on n'entre pas dans une vie théologale de contemplation et d'oraison, on ne tient pas. Vous verrez. On ne peut pas tenir. C'est impossible. Et pour ça, il faut comprendre que c'est dans la foi qu'on reçoit la parole de Jésus. Femme, voilà ta mère. Voilà ton fils. Voilà ta mère. C'est celle que Jésus nous donne, que nous devons recevoir comme mère. La recevoir toujours plus et la recevoir dans toute notre vie. Marie doit nous éduquer dans toute notre vie puisqu'elle est reçue dans la foi et que la foi regarde toute notre vie. Elle est reçue dans l'espérance parce qu'elle est notre espérance et elle est reçue dans notre cœur. C'est celle qui dit « Je suis l'Immaculée ». Celle qui nous fait comprendre qu'elle est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre de la croix. Celle qui veut que nous entrions progressivement dans tous ces mystères. Or, vous savez bien, je l'ai déjà dit à beaucoup d'entre vous, puisque nous l'avions vu un peu à Fribourg, mais je reprends à parce que le mystère de Marie, ça demande toujours d'être repris. Vous savez bien, le premier fruit de l'Immaculée Conception dans le cœur de Marie, c'est sa consécration totale à Dieu. La vie religieuse naît du mystère de l'Immaculée. Et ceci, c'est capital de comprendre cela. Tant qu'on n'a pas compris cela, on n'entre pas vraiment dans la vie religieuse. On n'entre pas vraiment dans la vie monastique. Parce qu'on essaie d'adapter la vie religieuse à son propre conditionnement. Or, la vie religieuse n'est pas faite pour être adaptée à notre propre conditionnement. La vie religieuse nous dépasse. Elle est le fruit du mystère de l'Immaculée Conception. La vie religieuse n'est pas faite à notre taille. C'est toujours quelque chose qui descend du ciel. C'est pour ça que quelquefois c'est un peu rude à porter. Il y a des jours où on aimerait mieux d'être purement au niveau humain. C'est magnifique de voir cela. Que le fruit premier du mystère de l'Immaculée Conception, dans le cœur de Marie, la première exigence, la manière dont elle répond pleinement à ce mystère de miséricorde, à ce mystère d'amour, cette miséricorde prévenante du Père, le Père qui l'enveloppe complètement de son amour. La première réponse de Marie, c'est de se consacrer à Dieu. C'est de tout donner. De ne rien garder pour elle. Marie qui se consacre. Ce que la tradition a appelé la présentation de Marie au temple. Marie qui coopère à cette plénitude de grâce que Dieu lui a donnée gratuitement. Marie qui coopère à cette miséricorde prévenante du Père. Marie qui se présente au Père comme sa petite enfant bien-aimée. Elle se consacre entièrement son âme et son corps pour réaliser ce que le Père veut réaliser en elle. Elle se consacre dans un abandon total, c'est-à-dire pour répondre à la volonté du Père sur elle. Elle n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir la volonté du Père. Et ceci se réalise dans cette attitude d'adoration. Elle se remet entre les mains de celui qui est son Créateur et son Père. Et elle n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir sa volonté. Je crois qu'il faut que notre consécration à Dieu, pour ceux qui ont déjà fait leurs vœux, et pour ceux qui s'y préparent, il faut que notre consécration à Dieu se fasse à l'intérieur de la consécration de Marie. Parce que c'est le modèle de toute consécration. Mais quand on dit toujours la consécration religieuse, c'est la grâce du baptême. C'est très vrai de dire ça. Et on le répète tout le temps. Parce que saint Thomas l'a dit. Cet homme a dit ça en théologie scientifique. Pour nous, aujourd'hui, en théologie mystique, c'est-à-dire dans notre vie, nous devons dire que notre consécration religieuse nous lie à la consécration de Marie. Ça va plus loin que le baptême, vous voyez ? Oui, ça va plus loin. Puisque tout s'achève dans le cœur de Marie. Et notre consécration religieuse doit être ce lien avec le cœur immaculé de Marie. Doit être ce lien avec Marie qui retourne vers le Père. Avec Marie qui regarde le Père, qui se présente au Père en se donnant totalement. Alors ça fait comprendre comment notre consécration religieuse doit impliquer cette note d'abandon. On ne peut pas vivre notre vie religieuse, notre vie monastique, sans cet abandon total, la remise de tout entre les mains du Père. Mais c'est une modalité, quand j'ai dit ça va plus loin que le baptême, il faut bien comprendre. Ça fait tout simplement comprendre qu'il y a une modalité nouvelle qui s'explicite grâce à la consécration de la Très Sainte Vierge. Et c'est cette consécration de la Très Sainte Vierge à la Très Sainte Trinité, c'est cette consécration de Marie au Père qui devient le modèle de notre consécration. Alors il faut essayer d'entrer dans ce que la tradition elle-même nous a montré dans cette consécration de Marie. Il n'y a rien dans l'Écriture. C'est ça qui est extraordinaire. C'est uniquement un mystère de la tradition. Je sais qu'aujourd'hui, on ne veut pas trop en entendre parler. Marie. Et la grande tradition de l'Église sur le mystère de Marie, n'hésite pas de le dire, il faut voir comment Albert le Grand parle de cette consécration de Marie à la Très Sainte Vierge. Albert le Grand était un petit enfant merveilleux de la Très Sainte Vierge. Il avait tout donné à la Très Sainte Vierge. Et Albert le Grand fait comprendre, justement, que Marie ne pouvait demander conseil à personne. C'est très beau, ça. Elle ne pouvait s'appuyer que sur la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'elle s'offre entièrement. C'est ça l'abandon, c'est s'offrir. C'est le résultat d'un acte d'adoration en esprit et en vérité. On se remet entre les mains du Père pour que le Père puisse vraiment nous attirer. On se consacre pour vivre de l'attraction du Père. Et Marie se consacre pour cela. Toute la vitalité qui est en elle, toutes ces richesses qui sont en elle, tout cela est remis entre les mains du Père. Dans la façon la plus simple qui soit, sans aucune idée préconçue, a priori, on se donne à Dieu. Et on se donne à Dieu dans l'amour, d'une manière obscure et dans la pauvreté de l'espérance. Mais on se donne totalement à Dieu. Dieu nous a tout donné, on lui rend, on lui donne tout. Vous voyez, c'est bien ce que l'évangile d'aujourd'hui nous rappelait. Hein. Mais ça se fait à travers le mystère de Marie, dans la douceur du mystère de Marie et dans la joie du mystère de Marie. C'est un dépassement à l'égard de toutes nos volontés propres. Consécration mariale. Ce n'est pas un vœu nouveau, si vous voulez, ce n'est pas un vœu particulier. Il n'y a pas de vœu d'abandon au sens absolu. Vous savez bien, quand des religieuses demandent à Rome de vouloir ajouter un vœu particulier du vœu d'abandon, vous savez bien ce que Rome répond. Toujours, il n'y a pas de matière à ce vœu. Et donc, on ne voit pas ce qu'on pourrait juridiquement. Parce que l'abandon, c'est un esprit. Et c'est l'esprit des vœux de religion. Et celui qui ne vit pas des vœux ne peut pas vivre d'abandon. Mais celui qui vit vraiment du vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, celui-là vit dans l'abandon. Et c'est directement l'esprit de nos vœux. C'est pour ça que ce n'est pas un vœu particulier. C'est en ce sens-là que c'est une modalité particulière. Et c'est très important d'insister sur cela. Cette reprise des vœux. On a beaucoup trop insisté sur l'aspect juridique des vœux. Alors, sur l'aspect juridique des vœux, on a fait une opposition entre le religieux et le laïc consacré. Marie est une laïque consacrée, et c'est la première des religieuses. Alors quand on fait une opposition entre les deux, ça prouve qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout que c'est Marie qui est la source de toute consécration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut reprendre ça à la source. C'est Marie qui est source de toute consécration. Il y a un laïc consacré comme un religieux au point de vue de Dieu. Il n'y a pas une grande différence, parce que Dieu regarde toujours les intentions du cœur. Dieu ne regarde pas les conclusions, il regarde les intentions du cœur. Dieu n'a pas un regard juridique, Dieu a un regard intérieur. Et les intentions du cœur, c'est justement comprendre comment on veut aller le plus loin possible dans l'offrande de toute notre vie. On offre à Dieu toute notre vie. C'est bien ce que Marie a fait dans cette consécration de tout son être au Père. Consécration de toutes nos capacités de posséder, notre avoir. Nous avons une capacité de posséder, hein. C'est bien évident, notre avoir, nous avons beaucoup plus conscience de notre avoir que de notre être. Hein, vous savez bien, notre avoir il est beaucoup plus gros que notre être, si j'ose dire. Hein, parce que c'est notre héritage, notre avoir. Ça s'accumule, notre avoir. Notre avoir, nous en avons conscience. Eh bien, par le vœu de pauvreté pris dans l'esprit de pauvreté, nous acceptons de n'avoir plus aucun avoir. C'est un dépouillement pour être dans la vérité, pour être dans la petitesse. L'esprit de pauvreté nous met dans la petitesse évangélique. Et c'est Marie qui est la première dans cette petitesse évangélique. C'est Marie qui nous indique la voie. Par sa consécration, Marie entre dans cette petitesse évangélique. Accepter de ne plus avoir aucun avoir. Pas seulement l'avoir, vous comprenez, des richesses. Si on n'en avait pas du reste avant d'entrer, alors c'est très simple. Ne plus avoir de richesses, c'est simple. Mais entrer dans l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire de ne jamais revendiquer un avoir. Un droit, ne jamais revendiquer. Ça vient vite, vous savez, les revendications, ça pousse vite. Hein. Il suffit dès qu'on est un tout petit peu malade et qu'on voit l'infirmerie et qu'on réclame telle ou telle chose et puis qu'on dit « Ah non, on n'a pas, on va vous donner autre chose. » On revendique. « Ah non, c'est ça que je veux. On m'a donné ça, je veux ça. » C'est ça la revendication, on croit qu'on a un droit. Parce qu'on s'est servi d'un remède, on a un droit. C'est très curieux, cette revendication. Vous voyez, dès qu'on est plus faible, ça pousse beaucoup plus vite. C'est normal, hein, c'est pas commode de vivre une certaine faiblesse. C'est pas commode de vivre certaines faiblesses, certaines privations, certains manques de santé dans un esprit de pauvreté. C'est pas commode à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas commode à quelqu'un qui a des privations d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est quelquefois plus difficile, même dans le contexte d'aujourd'hui. C'est quelquefois plus difficile. Il faut que l'esprit de pauvreté transforme l'avoir que nous avons. Si nous avons une bonne santé, ça ne nous appartient pas. Utilisons cette bonne santé pour être au service de Dieu, sans avoir aucune réserve. Il ne faut pas avoir de réserve. Alors, je ne demande pas chaque jour, hein, pour chacun d'entre vous, d'aller jusqu'au bout. Il y a un permettre qui est là pour vous dire attention, attention, prudence. Mais vous devez aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour le permettre hein, de dire « soyez prudent » que de dire « écoutez, hein, vous avez la prudence d'un vieillard, hein, c'est un peu ennuyeux. Déjà à votre âge, qu'est-ce que ce sera quand vous aurez 50 ans ? Vous êtes déjà un vieux garçon. Un vieux garçon qui tâtait le pouls le matin et le soir en disant « aujourd'hui ça va pas, il y a du brouillard, quand voulez-vous, ça ne va pas. Aujourd'hui, je fais ça. » C'est beaucoup plus difficile pour le permettre de dire « écoutez, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fouet chez le permettre. Bon claque, un bon coup, pour que vous ayez un peu plus vite, pour faire trotter le vieil âne. Alors, c'est. Et pourtant, il faudrait de temps en temps, parce que quand même, hein, la ferveur dans la pauvreté. Il faut être fervent dans la pauvreté. La ferveur dans la pauvreté, ça consiste d'entrer pleinement dans cet esprit de pauvreté, comme Marie a usé de tout sans aucun droit. Marie a accepté telle ou telle privation sans aucune revendication. Ça, c'est très beau de voir ça. Et c'est très grand. L'esprit de pauvreté supprime toute revendication. L'esprit de pauvreté supprime tout ce qu'il peut y avoir, voyez, d'attitude, de repliement sur soi, de vieillissement précoce. Ça supprime tout ça. Et ça nous met dans l'attitude de celui qui reçoit et qui a soif de recevoir. On devient mendiant de la miséricorde du Père. C'est le propre de l'esprit de pauvreté, de devenir mendiant de la miséricorde du Père. On reçoit tout gratuitement. Et on est heureux de recevoir tout gratuitement. Ce n'est pas exactement ce qu'on avait pensé. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'on donne tout. Il n'y a que le pauvre qui s'est donné, vous savez bien ça. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Il n'y a que le pauvre qui s'est donné. Il n'y a que le pauvre qui est joyeux de ce qu'il reçoit, parce qu'il ne compare pas, parce qu'il supprime toutes les comparaisons. Et alors c'est cet esprit de pauvreté qui nous maintient dans une véritable joie. On a tout donné. Dieu peut se servir de nous comme il le veut. Au vivre de l'esprit de chasteté, l'esprit de virginité, il faut vivre de l'esprit d'obéissance. C'est Marie qui nous apprend cela. Je ne veux pas tarder puisque nous allons avoir cette petite liturgie très simple, si vous voulez. C'est simplement faire que chacune des cellules, chacun de vos lieux où vous demeurez, la cellule, c'est le lieu de la rencontre avec l'agneau. C'est là où il demeure, voyez, et c'est les délicatesses de l'agneau. C'est qu'il demeure là où vous êtes. Vous allez auprès de lui et lui vient auprès de vous. Et dans cette bénédiction que nous allons faire, nous allons chaque fois prier tous pour le frère qui habite là. C'est la grande charité fraternelle. On ne va pas réciter chaque fois un « Je vous salue Marie » parce que ça en ferait pas mal. Hein. Mais alors, on doit aller assez vite, ça fait partie d'une liturgie un peu rapide. Mais à chaque fois, il y aura la petite croix qui sera remise.